Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Aude de Kéros, assisté de Christine Sourgens. Émission préenregistrée les 27 et 29 novembre 2017. Elle est diffusée pour la première fois jeudi 30 novembre 2017 de midi à 13h30 et réalisée par Franck, Jean-Édouard et Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers auditeurs, je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui la présence de Boris Lejeune, qui est un artiste d'origine russe, et toute cette émission sera consacrée aux artistes russes. Et vous verrez qu'il y a là un monde. Boris Lejeune, vous êtes déjà venu à Radio Courtoisie pour la dernière fois, je crois que c'était pour un livre sur la beauté.
Oui.
Que vous aviez écrit, car si vous êtes sculpteur et peintre, et non des moindres, vous avez aussi été quelqu'un qui a écrit sur l'art, si vous vous rendez compte, le sujet que vous avez abordé la dernière fois était un sujet très difficile, la beauté, et vous êtes par ailleurs aussi poète. Et vous êtes en France depuis 1982, me semble-t-il.
80.
Voilà. Donc 80. Vous êtes arrivé avant la chute du mur de Berlin et l'effondrement du système soviétique. Et vous avez pu comparer d'ailleurs les deux mondes, celui de l'Est et de l'Ouest, ce qui fait de vous un artiste qui a tout vécu. Et par ailleurs, on peut dire aussi de vous que vous avez eu la grande formation que nous autres en France n'avons plus depuis bien longtemps. Vous avez eu la grande formation classique à l'Académie de Saint-Pétersbourg, qui reste encore aujourd'hui un des lieux où l'on enseigne encore les grandes disciplines de l'art.
Oui, l'éducation était basée sur l'étude de la nature, des modèles vivants. Et c'était 6 heures chaque jour.
Oui, donc on peut dire que vous avez été formé,
ouais,
et que vous avez été assez vite reconnu comme un des plus brillants éléments de cette académie. Et donc vous avez commencé votre vie en ayant une grande somme de connaissances, si on peut dire. Et en particulier, vous étiez parmi ceux qui avaient été formés aux monuments, faire de la sculpture monumentale, et ce qui est aujourd'hui presque, qui est extrêmement rare, parce que ça demande évidemment à la fois une grande virtuosité, mais aussi d'immenses contraintes de savoir-faire.
Oui, enfin, l'enseignement, le but de l'enseignement, c'était de former le sculpteur monumental, le sculpteur qui est capable de concevoir un monument qui est quand même quelque chose de particulier. C'est pas tout simplement faire une sculpture. Monument, il exige de répondre à plusieurs critères. Il faut que l'isibilité sera immédiate. C'est-à-dire qu'il y a n'importe quelle heure de la journée, c'est-à-dire qu'il faut penser les silhouettes, il faut penser l'espace, environnant, les perspectives, le lieu, il faut que ça sera adapté au lieu, c'est-à-dire
en
harmonie avec telle ou telle architecture. Mais surtout, il faut bien établir les proportions
dans la vision du paysage.
Oui, 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 pour ne pas détruire. Il faut dire aussi que la sculpture soviétique, comme toute la sculpture totalitaire, souvent transgresser cet ordre.
Elle fait dans l'énormité.
Dans l'énormité, parce qu'il fallait
impressionner
et mettre l'homme devant
un demi-dieu qui était statué.
Demi-dieu, voilà, tout c'est un bon terme pour ça. Qui ne m'a jamais plaisé, au fond.
Qui ne vous a jamais plu.
Ouais. Et le plus petit, disons, taille, c'était à l'époque soviétique, c'était 3 mètres. La figure humaine, ça devrait être. C'est le plus petit 3 mètres. C'était le norme. Le norme.
Ouais. Et alors, dans l'académisme, c'est combien? C'est un peu plus grand que nature, c'est un.
Mais la nature, c'est 1,70 m.
1,70 m, mais
moyen,
dans la sculpture.
La taille moyenne.
Mais dans la sculpture, généralement, il y a un peu au-dessus de la. De la nature, c'est quoi? Un tiers en dessus?
Ah, un tiers en dessus, oui.
Un tiers en dessus, voilà.
Ouais.
Même dans un. Même d'un ouais, un portrait tiers, qu'on un met tiers. Sur la cheminée, c'est-à-dire un buste, c'est ouais. Légèrement plus grand que nature.
Mais c'est, ouais. Au fond, c'est très variable, parce que là, nous rentrons dans la problématique de perception. Ouais. Mais imaginons une place énorme. Ouais. Il y a des milliers de gens, ouais. Tous sur un pavé, des pavés. Ouais. Et il y a quelqu'un qui prend les chaises pliantes et se monte sur ces chaises pliantes. Ouais. Et c'est lui qui sera le centre. Ouais. Ça suffit de se lever un peu et voilà, il est le centre. Donc c'est un peu bête de chercher les très grandes dimensions.
C'est idiot. C'est surtout idéologique.
C'est pas
visuel, c'est idéologique.
Les Grecs, si on prend la sculpture antique fameuse, c'est jamais très grand.
Oui,
regardez au Louvre. Louvre, la fameuse Vénus de Milo. De Milo, elle a à peine 2 mètres. Mm. À peine 2 mètres, mais elle est grandiose. Mm. Au fond, ici, il y a un autre problème aussi, parce que une petite sculpture de 20 cm peut être monumentale, par ses proportions intérieures. Mm. Là, c'est important. Comment vous traitez les proportions intérieures? Parce qu'au fond, les proportions, c'est la mélodie. Mm. C'est le rapport des parties à tout, le rapport des parties entre eux, se font une mélodie. Mm. On ne peut pas tout simplement calquer les proportions, je ne sais pas, d'un personnage
qui avait
par exemple, 8 têtes. Parce que quand on mesure une figure, voilà, on a le nombre de têtes qui contiennent toute la figure propre à chaque personne. Disons, si la personne est taille moyenne, c'est 7 têtes en général, 7,5. S'il a 8 têtes, c'est la personne déjà grande.
Et d'ailleurs, c'est pour éviter aussi une erreur qu'on fait toujours quand on est un débutant, c'est qu'on fait toujours les têtes trop grosses par rapport au corps.
Parce que toute l'attention, c'est toujours prendre la tête, le visage. Ouais. C'est comme quand on fait les portraits, les amateurs souvent, ils travaillent tout ce que nous disons une masque. Ça veut dire le visage.
Mais ça s'appelle l'erreur commune.
Mais c'est l'erreur commune. C'est-à-dire on fait le nez, on fait les yeux, les bouches, qui est basé sur une espèce de quelque chose d'informe. Tandis qu'en vrai, tout le caractère de la personne, il se caractérise par comment cette tête tiennent sur les cou, sur les épaules.
C'est ça la monumentalité.
Comment la tête se porte.
Et alors nous parlons sculpture, mais donc imaginons un monumentaliste qui débarque en France dans les années 80 où on ne fait plus de monuments, ou c'est pas exactement qu'on ne fait plus de monuments, mais qu'on en fait de moins en moins, et surtout est né quelques années avant, pas très longtemps avant, la sculpture, non pas de célébration, hein, qui est un peu le métier du sculpteur, c'est célébrer la vie, le héros, la ville, enfin bref, on célèbre, c'est quelque chose qui est fait dans un sens positif. Mais la sculpture qui est dans l'ironie des choses. Ça a été la première sculpture de ce genre à Paris, ça a été l'amoncellement de valises et d'horloges devant la gare Saint-Lazare. Mmh. Donc ça date de 2 ou 3 ans avant que vous n'arriviez, et les colonnes Buren ensuite après. Vont suivre après. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout un monument de célébration, c'est tout autre chose.
Dérision.
Et de dérision. Et alors, donc, vous allez quand même faire, pendant toutes ces années en France, pas mal de sculptures. Pas pour la grande commande publique, parce que c'était plus possible à partir des années 80. Vous en avez fait quelques-unes de commandes, mais c'est la ville de Paris qui vous les a commandées, ou c'était...
Je veux préciser qu'au fond, j'étais quelque part... un peu perdu, au fond, quand j'ai trouvé tout ce qui est autour, enfin, par rapport de tout ce que j'ai, tout ce que je savais faire.
Oui, vous êtes dit, mais où suis-je?
Où suis-je avec moi-même.
Suis-je à Paris, vraiment?
Et par rapport de tout ce qui est autour de moi. Et donc, j'ai souvent raconté ça, que j'ai parti à la campagne avec mon épouse, Madeleine Lejeune, et puisque je ne savais pas quoi faire, en regardant autour de moi, j'ai vu le paysage typique français
de la Champagne,
de la Marne en plus, Marne, qui n'est pas tellement comme ça.
Oui, ça n'est pas spectaculaire.
Et je me dis, peut-être c'est que ça que je peux sculpter maintenant. Ouais. J'ai commencé à sculpter les paysages.
Oui, ça c'était... Ouais. Et on peut les voir à Paris, si vous habitez le 17e arrondissement. Ouais. Précipitez-vous, et ils sont là.
Et puisque je n'ai... Je savais faire que ça, à ce moment-là, j'ai proposé une galerie qui a tout de suite accepté, parce que personne ne faisait
des choses
avant. Après,
et ça orne
un critique, directeur du musée de Zadkine, qui a vu mes paysages pendant une exposition, j'étais invité au concours international pour faire les sculptures pour boulevard Pirer. Mmh. Et donc, j'ai proposé 5 paysages.
Voilà.
Et j'ai gagné ce concours.
Quand vous irez boulevard Pirer, il y a des jardins
toujours,
au milieu. Il y a quelques, on y emmène parfois les enfants pour jouer.
Oui, qui joue.
Eh bien, au lieu d'être sur le trottoir, entrez dans le petit
jardin
et vous aurez les 5 paysages de Champagne et de la Marne.
De la Bourgogne, de Bretagne, parce que je fais la mer, les champs, les vignes, enfin un peu paysage français typique. Quoi.
Et par la suite, vous avez eu des commandes des municipalités.
Pour d'autres villes.
Pour d'autres villes, ce qui était encore ouvert et possible à l'époque.
Ouais.
Et vous avez donc vécu quand même de votre sculpture en France, malgré toute la révolution culturelle que nous avons connue à cette époque-là, et le fait que la commande publique était beaucoup moins intéressée par la sculpture.
Ouais.
Et vous avez, ça vous a amené au bout de quelques décennies à faire une sculpture pour l'anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc.
Non, de sa naissance.
De sa naissance.
Il a 600 ans, il est né.
Le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc.
Sixième.
Et il n'y avait aucune sculpture n'était prévue pour cette commémoration.
Aucune.
Mais
grande.
Vous avez proposer une sculpture. Et bon, l'aventure de cette sculpture est assez typique de l'époque. Ça a scandalisé beaucoup de monde. Jeanne d'Arc est un personnage sulfureux. Et cette sculpture, elle existe bien. Elle est dans un très bel endroit qui est un des villages où Jeanne d'Arc allait faire
chaque semaine
ses moutons.
Chaque semaine, non. Non. Chaque semaine, elle est allée dans cet ermitage, devant la chapelle où est ma statue, dans cette chapelle qui est dans les montagnes, 3 km de Domremy, de Saint-Mézeau. Et cette jeune fille qui avait 10 ans, 9 ans, 8 ans, montait, faisait 3 km pour aller prier devant la Vierge.
De ce village.
Voilà. Dans cet ermitage. Il y avait quelques ermites, et je pense que quelqu'un, un ermite avec qui il a eu de bonnes relations, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi elle devrait monter comme ça, sûrement, c'était ça.
Donc cette statue de commémoration du 600e anniversaire se trouve là, elle existe.
Elle est toujours là.
Mais l'évêque du coin ne s'est pas dérangé, et ni le sous-préfet, ni le sous-sous-préfet, ni quoi que ce soit de ce genre, comme si la pauvre Jeanne d'Arc était en pénitence. Mais ça fait partie de l'histoire, et cette sculpture est magnifique. On a l'impression d'une Jeanne d'Arc très, très jeune, très mince, qui se précipite dans un élan avec son armure. C'est une guerrière. Jamais on n'a représenté Jeanne d'Arc comme ça. Il y a toutes sortes de représentations de Jeanne d'Arc, mais une comme ça, on ne connaît pas. Et cette Jeanne d'Arc aura toutes sortes de suites qui ne sont pas encore advenues et dont on parlera plus tard, puisqu'elle a intéressé, au-delà, n'est-ce pas, du cercle officiel français, a intéressé d'autres mondes. Ça sera ce qu'on évoquera plus tard. Mais aujourd'hui, nous n'évoquons pas du tout cela. Nous évoquons une commande publique que vous avez reçue, qui est d'abord un événement culturel en soi, puisque une grande municipalité d'une ville qui amène beaucoup de touristes et qui est une très belle ville de France fait la commande d'un monument qui commémore la Terreur à Orange, la ville d'Orange. Orange a connu un épisode de la Terreur, puisque la guillotine s'est arrêtée là et a guillotiné, je crois, 330 ou 60...
332 personnes.
32 personnes. La Terreur est d'actualité, comme vous savez. Nous vivons une période où des événements terroristes sont le pain quotidien. C'est la chose qu'on peut attendre. Tout le monde peut s'y attendre, n'importe où. Il n'y a pas de lieu protégé de cela. Et donc, ça commémore un événement historique qui fait que ça nous rappelle que nous, Français, nous avons connu dans une civilisation extraordinaire qui était celle du XVIIIe siècle, un épisode terroriste très, très important. Et par ailleurs, peut-être commémorer toutes les victimes de la Terreur qui ont pu suivre dans l'histoire. Alors donc, vous avez gagné ce concours pour ce monument, et je vous laisse la parole pour dire comment vous avez fait aujourd'hui, en 2017, un monument de commémoration pour les victimes de la Terreur.
J'étais très, très surpris quand j'ai eu un email provenant de la mairie d'Orange en me disant que voilà, on va faire un monument aux martyrs de la Terreur. Est-ce que ça vous intéresse de participer au concours? En principe, le concours,
vous
il y a longtemps
pas,
que
plus...
ça ne m'intéresse pas. Parce que
vous êtes déjà sculpteur affirmé.
C'est pas si quelqu'un s'intéresse, il suffit de regarder mon site et voir, et inviter tout simplement. Mais là, le sujet est tellement prégnant, et j'ai tout de suite pensé que dans notre époque de s'adresser déjà, de penser cet événement, cette terreur, était tellement exceptionnel, j'ai vite répondu que oui, bien sûr. Et j'ai donné mon numéro de téléphone. Et une femme qui s'appelait Elisa Bureau, qui m'a appelé. Après, on a discuté. J'ai expliqué que, oui, bien sûr, que je serais honoré de participer à ce concours. Cette femme aussi, j'ai su après qu'elle a fondé une association d'aide aux chrétiennes d'Orient, voilà, qu'elle est très impliquée aussi de...
Vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez Boris Lejeune, sculpteur.
Très, très appliqué de rendre justice, si vous voulez. Et c'est phénoménal. C'est, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence pour maintenant soulever ce thème. Et évidemment, la mairie, le maire d'Orange, Jacques Bompard, il y a cette honnêteté intellectuelle de réfléchir sur cette période. Et donc, quand j'ai commencé à étudier ce moment dans l'histoire française, qui, il faut le dire, était la base de tout le terrorisme.
Oui, que vous avez connu ensuite.
Qui sera encore, parce que dans l'école soviétique, j'ai étudié cette période. Robespierre, il était glorifié. Mm. Je pense qu'il y a des rues Robespierre en Russie.
Nous avons ouvert les portes à ce genre de malheur.
Lénine l'a bien étudié, il a répété tout ce qui était pendant la terreur, mais en plus, et Staline, mais avec plus d'applications, hein, parce que ce n'était pas des milliers de gens qui étaient tombés, à des millions. Et plus j'ai étudié cette question, j'étais surpris. Qu'est-ce qui s'est passé à Orange? Parce qu'à Orange, c'était quelque chose assez phénoménal. Il y avait donc ces 32 sœurs religieuses qui, pour qui c'était suffisant de dire, de prononcer le serment. Liberté, égalité.
Mmh. Il suffisait de dire ces deux mots pour être gracié.
Pour gracié et partir chez eux. Et aucune n'est pas acceptée.
Oui, c'est-à-dire que librement, elles ont accepté la mort.
Et qu'est-ce qui est aussi assez phénoménal et surprenant, que parmi ces 32 religieuses, il y avait une, Marie-Thérèse Pélissier, qui était poétesse, et pas n'importe quelle poétesse, c'était une grande poétesse. Bon, ce nom peut-être dira pas beaucoup, parce que son œuvre n'est pas publiée, n'est pas répertoriée. Mais avant d'être guillotinée, c'est-à-dire quelques jours avant sa mort, elle a écrit un cantique, Ode à la guillotine. Dans ce poème, dans ce texte, elle exprime avec beaucoup d'économie, beaucoup de vigueur, tout ce qu'ils ont vécu. Et quelque part, ce poème m'a orienté. Bon, j'étais aussi, il ne faut pas oublier, j'étais aussi dans un endroit qui est un président d'une association qui garde les mémoires de ces 32 religieuses, m'a montré le lieu où ils étaient tous enterrés. C'était dans un champ, 4 km d'Orange. Et après, quelqu'un qui achetait ce champ, jamais labouré, il y avait le pèlerinage.
Il existe encore, ce pèlerinage?
Il existe chaque mois de juillet. Mmh. 9 juillet, il y a le pèlerinage. Et dans ce lieu, il est le même, construit une petite chapelle. Mmh. Et j'étais dans ce lieu, et c'est phénoménal. J'étais vraiment imprégné. Il y a quelque chose qui que j'ai senti en regardant enfin, ces cyprès qui étaient plantés, parce qu'ils étaient...
Des cyprès.
Ils étaient enterrés au long de ce champ-là. Et après, au long de ce champ, on a mis ces cyprès. Et donc, il y a une atmosphère là-bas énorme. Et en étudiant, je me pensais comment faire. Bon, je pensais faire une guillotine, faire cet acte, disons, comment
représenter
ça. Après, j'ai dit, oui, mais ça sera horrible quand même au centre de la ville, parce que la ville, elle a proposé l'endroit où était la guillotine.
C'est-à-dire devant le théâtre.
Oui, après, dans cette lieu, on a mis le théâtre. Mais il n'y avait pas de théâtre.
Ah oui, d'accord.
Après, je ne sais pas par quel...
Donc c'est le centre, c'est le centre de Orange.
Centre d'Orange, parce que ça fonctionnait au centre d'Orange. Il fallait que tout le monde vive. Ah, on a coupé la tête et crié « Vive la nation !» C'est pas quelque chose, c'était un spectacle. Et après, j'ai dit, non, ma femme me disait, mais non, tu ne peux pas mettre la guillotine comme ça. Et en lisant ce poème, j'ai vu que pour eux, ils ne voient pas de guillotine. Ils voient la porte de ciel. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux, ils étaient souriants.
Et elles sont montées à l'échafaud.
Elles sont en chantant.
Et ce qui a laissé le public pantois et même un peu agacé, parce qu'on les a appelées les bougresses, parce qu'elles chantaient.
Donc je représente, parce que bon, c'est la radio, évidemment je ne peux pas montrer comment ce sera mon animal, que je travaille maintenant. C'est les moniales qui vont vers une arche, cette arche qui était la guillotine, c'est devenu une arche, et à la haut de cette arche portail, il y a l'ange qui les accueille. Voilà. Ils sont tous en élan, comme ça, ils sont heureux. Ouais. C'est pas tragique, tout ce que j'ai fait. Je ne voulais pas que ce soit tragique, parce que c'était pas pour eux le tragique. C'était, ils remerciaient les bourreaux en disant merci, parce que une religieuse lui disait, mes parents me donnaient la vie. Mais vous m'avez donné encore quelque chose de plus grand. Vous m'avez ouvert le ciel.
Oui, vous m'avez donné la vie éternelle.
La vie éternelle. Ouais. Et voilà, c'était... Mais quand même, sur le piédestal, j'ai fait un relief où représentait la scène de décapitation. Les aléas des deux bourreaux qui décapitent. Donc, mais... En dessous de ce relief, j'ai mis le poème de sœur Théocile des Saints Sacrements, où j'ai mis des mots, je vais lire, où j'ai mis qu'est-ce que ça...
D'une certaine façon, la terreur a échoué, là. C'est l'échec total de la terreur.
Mais oui, j'ai mis comme ça les mots. Quitte écran, parce que c'est la fin de son poème. Quitte écran, crainte ou guillotine, à mon avis, à grand tort. Si tu nous fais grise mine, tu nous conduis à bon port. Si tu nous parais cruel, c'est pour notre vrai bonheur une couronne éternelle et le prix de ta rigueur. Ça, c'est comme ça, ça se termine son poème. Mais il a beaucoup d'esprit. Hein. Par exemple, il y a des mots comme ça, il y a un cran de l'humour. Elle dit « La guillotine inquiète, l'esprit faible, un faible cœur. Je peux craindre sa toilette. Sa fin ne me fait pas peur. »
Oui, la toilette, c'est le moment où on leur coupe les cheveux.
On coupe les cheveux, mais on peut voir aussi que les toilettes, carrément que la tête parte. Ça aussi, hein, c'est, donc, c'est justement, mais c'était... non, mais il y a dans ces poèmes, il y a des...
Et alors, est-ce que vous me disiez, Boris Lejeune, vous êtes sur Radio Courtoisie, et qu'on savait tout sur tout ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un, une des religieuses qui est passée à la guillotine d'ailleurs, a écrit le journal au jour le jour de l'emprisonnement, des jours passés ensemble.
Comment se comportait chacune, les caractères de chacun. C'était extrêmement précis d'ailleurs. C'était écrit de, vraiment, qu'est-ce qu'elle dit cette... et la vie de chacun aussi, il est décrit de chacun de ces...
C'est ça, ce ne sont pas des morts anonymes. Et donc on voit que chacune de ces personnes est morte librement. Et vous disiez que vous aviez tout à fait conscience, très fortement conscience, de faire un monument, non pas à la terreur, mais à la liberté de conscience.
Oui.
Et que vous étiez tellement heureux de faire ça, étant donné que dans votre passé en Union soviétique, la question de la liberté de conscience se posait à beaucoup de gens, et surtout, évidemment, aux intellectuels et aux artistes. Pour qui, peut-être, il y avait une responsabilité de ce type-là. Ne pas accepter un système qui ne vous laisse pas la liberté de conscience. Et puis, c'est aussi une conception de la liberté très exigeante, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la liberté de faire ce qu'on veut, c'est la liberté de conscience, c'est encore autre chose.
Oui, c'est très juste que tout ce que tu as dit, Aude, que c'est le monument à la liberté de conscience. Très juste. C'est le monument, hommage aux martyrs de la terreur, mais au fond, ils étaient martyrs de leur liberté, de leur liberté de conscience. Parce que ils ne voulaient pas qu'on les impose tout à ce qu'ils ne croyaient pas. Parce qu'ils donnaient le serment, déjà, le serment de leur vie monastique, à une vision de la vie qu'ils trouvaient juste pour eux, et ils ne voulaient pas de trahir ça. Et dans notre vision actuelle des choses, ça se défend partout la liberté de la pensée. Mais la liberté de la pensée, c'est la liberté de la conscience. Qu'au fond, on peut dire que c'est 32 religieuses qui, pratiquement tous, quand on le disait, mais pourquoi vous ne voulez pas dire ce serment qu'on vous demande.
C'est-à-dire
ils disaient eux-mêmes à l'époque, parce que c'est contraire à ma conscience.
Ouais. Et en plus, on leur faisait prononcer le mot liberté.
Oui, liberté, il fallait dire égalité. Liberté, égalité. Voilà. Voilà, c'est ça qui est.
Donc en fait, il y avait le mot liberté dedans, mais c'est pas la liberté dont elle...
C'est pas la liberté de conscience. Comment eux comprenaient donc, quelque part, c'était contraire à leur foi. Même, je veux dire...
À leur honneur.
Quand j'ai décidé de quitter l'Union soviétique, quand j'étais jeune, j'ai pensé... J'étais pas vraiment très malheureux, disons, matériellement.
Vous étiez un sculpteur reconnu.
Membre de l'Union des artistes soviétiques.
Ce qui n'est pas donné
nous étions que 14 000. Pour un immense pays, c'était rien.
C'est-à-dire que les Français ne savent pas que tout le monde n'était pas admis à l'Union des artistes.
Non, la maison d'artistes en France, elle est plus nombreuse.
Ils sont 40
000
à peu près.
Ah, nous étions que 14 000 pour un immense pays. Et donc, moi, je me disais à l'époque, je vais mourir comme je veux. C'était pas aussi fin comme cet entrant droit religieuse. C'était,
oui,
disons, parce que eux, ils pensent à la vie, ils pensaient à la vie Parce que quelque part, tout ce qu'on leur demandait, c'était contraire à leur vision de l'éternité, de la vie. Moi, je pensais que je vais mourir comme je veux. Enfin, parce que je voyais déjà comment ma mort dans ce système où tout était pré-réglé sera. Sera. Voilà. Et là, en faisant quelque part ce travail sur ce monument, j'ai découvert même pour moi-même, j'ai précisé ma propre vision de la vie.
C'est ça. En fait tout un parcours dans très concrètement un monde qui a perdu la liberté en Union soviétique, mais qui l'a perdu aussi en Occident d'une autre façon. C'est ce que vous avez pu vivre tous les jours et qui vous impressionne, parce que on a l'impression d'être libre ici, tandis que vous saviez que vous n'étiez pas libre en Union soviétique. C'est paradoxal tout ça.
Et donc c'est intéressant que tout ce que la ville d'Orange a lancé, parce que ce n'est pas seulement une commémoration de on soulève un grand problème.
Un problème de fond.
Comment voir la notion de liberté, l'individu, la personnalité, la foi,
l'honneur,
voilà, le courage.
Et le sens de la vie.
Oui, le sens de la vie, c'est surprenant. Voilà.
Boris Lejeune, nous avons en ligne Christine Sourgens, qui va nous faire sa chronique et sur le grand événement de la semaine. Qui illustre un petit peu beaucoup de choses curieuses de notre époque. Christine.
Oui, Aude, ce mois-ci, la presse nous a quand même raconté une très très belle histoire, un très joli conte, vous savez. Il était une fois un Léonard de Vinci rarissime, la seule toile du maître italien encore aux mains d'un collectionneur privé. Alors elle avait traversé les siècles, totalement inaperçu. C'est dire, Aude, si les experts de nos aïeux étaient nuls. À tel point qu'en 1958, le tableau sera vendu 45 livres sterling, le pauvre. Et il y a encore 3 ou 4 ans, même les grands musées américains n'en voulaient pas. Hein, quel manque de flair. Heureusement, Zorro est arrivé. Alors, dès 2005, on a un trio d'experts qui mise sur l'authenticité. Et puis une restauratrice qui enlève les repeints. Et là, miracle, Léonard apparaît dans sa splendeur devant les foules ébahies convoquées par Christie's, la grande maison de vente aux enchères, qui décroche un record du monde. 450 millions de dollars pour ce Salvator Mundi. Mais si on traduit le titre, le sauveur du monde, même pour à peine un demi-milliard, avoir le sauveur du monde, c'est quand même donné. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un Christ fatigué, complètement lessivé, avec des parties manquantes, notamment sur le visage. Mais la restauratrice est formelle. Le sourire est léonardien, c'est donc à Léonard. Alors, vous savez que le style de Léonard de Vinci joue sur le sumato, c'est-à-dire un procédé pictural qui consiste à estomper les formes. Et donc, ce sauveur du monde est presque caricatural du style léonardien. Seule la main droite est de belle facture, mais elle est fausse, du moins le majeur. Donc, cette main ne peut pas être de la main du grand anatomiste qui était de Vinci, comme le remarque un spécialiste, Jacques Franck. Cet expert signale aussi que les boucles de cheveux sont trop régulières, trop raides pour être de la main du maître. Bref, c'est probablement ce qu'on appelait autrefois une œuvre d'atelier, des environs de 1500, très usée, très restaurée, où le maître a pu intervenir de ci, de là. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, comment cette chose a-t-elle pu battre des records? Eh bien, rien n'eût été possible sans Zorro Christie's, qui a organisé un marketing osé, comme l'a qualifié la presse. Donc on a eu d'abord une tournée mondiale du supposé chef-d'œuvre jusqu'à Hong Kong, qui a d'ailleurs évité les pays latins, je crois, Aude. Hein. Et puis un plan de communication assez malin qui jouait autant sur l'aura de l'artiste que sur l'œuvre elle-même. Évidemment, derrière, il y a un marketing qui a pris la vague du livre et du film, le Da Vinci Code, qui a renforcé l'universalisme du nom Vinci. Et d'ailleurs, la vidéo promotionnelle de la vente titrait « Le monde regarde ». et elle ne montrait pas le tableau, mais des visiteurs émus. Et parmi eux, il y avait Leonardo DiCaprio ou Patti Smith, qui sont de grands experts de la Renaissance, comme chacun sait. Mais surtout, le tableau a été proposé lors d'une vente d'art contemporain.
Oui, ça, c'est ça. Oui, oui, c'est ça le truc extraordinaire.
C'est sans précédent, bien sûr.
Et vous savez pourquoi ? C'est parce que c'est là où il y a l'argent. Et il y a tous les barbares qui sont là avec leur argent.
Voisinait avec un Varol, s'inspirant de qui ? De la scène de Léonard de Vinci, bien sûr. Donc tout a été fait pour détourner l'attention de l'état du tableau et se focaliser sur une belle histoire.
Et puis se focaliser aussi sur une clientèle barbare
qui, dans l'euphorie des marchés boursiers, où n'importe quoi peut se vendre.
Oui.
Alors effectivement, on peut se demander si l'acquéreur anonyme, parce que dans ces cas-là, l'acquéreur est toujours anonyme, vous savez, il est caché au téléphone, à l'autre bout de la planète. Bon, on peut se demander si on a affaire à un jeune fortuné qui achète pour frimer et qui recherche plutôt une marque qu'une œuvre. Je vais citer Nicolas Joly, judicieusement mentionné par Roxana Azimi dans un article du Monde. Nicolas Joly dit « Si Christie's avait mis le Salvator Mundi dans une vente d'art ancien, les gens auraient été beaucoup plus exigeants. »
Absolument. Ouais.
Là, ils vont essayer d'alpaguer, c'est pas moi qui le dis, d'alpaguer un collectionneur d'art contemporain qui n'y connaît rien.
Exactement.
Donc de l'utilité, de l'art très très contemporain.
Et puis il y a l'argent sale aussi qui surquille.
L'art ancien un peu douteux. Bon. Thierry Herman, qui est le directeur d'Art Price, interrogé par une radio, laissa entendre que l'acheteur pourrait être, peut-être, un de ces nouveaux musées qui fleurissent en Asie. Et alors il nous a expliqué que Léonard est, alors je suis désolée, sur Radio Courtoisie, la radio de la francophonie, bankable en quelque sorte. Ouais. Léonard est bankable, pourquoi ? Parce que la Joconde, elle a un prix. Dit-il, parce qu'elle suscite un circuit muséal, donc une billetterie propre et des bénéfices. Donc le prix du Vinci, en fait, il s'est envolé à la hauteur du futur retour sur investissement. C'est une démarche tout à fait comparable au transfert faramineux des joueurs de foot. Donc on a Léonard qui maintenant est le capitaine d'une équipe muséale et qui battrait Neymar à plate couture, puisque Neymar est bien en dessous quand même des 450 millions de dollars. Mais la comparaison n'est pas totalement exacte, parce que le footballeur, lui, n'est pas dénué de qualité sportive, alors que le Vinci est quand même un petit peu à bout de souffle. Et si la valeur intrinsèque est tuée par le marketing, alors on peut prédire la disparition des experts dont le silence embarrassé, à quelques exceptions,
exactement,
en dit long.
C'est-à-dire, en fait, que les institutions et les experts passent derrière les collectionneurs qui fabriquent de la monnaie.
Oui, les collectionneurs.
C'est planche à billets. C'est une planche à billets.
Et les marchands, les collectionneurs et les marchands. Tout
oui, disons que les marchands sont derrière les collectionneurs.
Voilà.
Les marchands sont en dessous des collectionneurs.
Oui, enfin, comme souvent, certains collectionneurs... Enfin, il faut rappeler que Christie's est la propriété de M. Pinault, donc on ne sait plus effectivement qui est qui. Mmh. Puisque les collectionneurs possèdent les institutions marchandes, donc...
Et puis Thierry Herman dit une chose qui est intéressante aussi. Il dit 400 millions, ça devient le prix le plus haut du marché de l'art, de tout le marché de l'art. Ça veut dire que le marché de l'art est un secteur économique et financier important et que tout le monde doit reconnaître l'art comme une marchandise très rentable, d'un large niveau financier et coté à des hauts prix, et que tout va se caler sur ce sommet des 400 millions qui sera dépassé un jour, bien sûr, et que tous les prix vont monter.
Bien sûr. Mais on a eu ça aussi dans les Pays-Bas autour des tulipes. On a eu ce genre d'engouement.
Voilà. En tout cas, c'est vrai que à partir du moment où il n'y a plus de valeur intrinsèque, même en dehors de l'art contemporain, c'est la nature de l'art contemporain de ne pas avoir de valeur intrinsèque, mais en dehors de l'art contemporain, il y avait encore l'art qui avait en principe une valeur intrinsèque. Alors si le fait qu'il n'y a plus de valeur intrinsèque et que c'est un travail de marketing et de fabrication et de planches à billets, ça veut dire aussi que l'art n'a plus de... L'art n'est pas...
Mais on repense à cette phrase d'un grand sage qui était Raymond Barre, qui disait « Lorsque les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite.
» Voilà. Sauf qu'à un moment donné, ça ressemble, dans ces cas-là, ça ressemble à ce qu'on appelle une bulle. Mm-hmm. Parce que la bulle, c'est il y a beaucoup d'air et pas de valeur. Et bon. Alors, la bulle peut durer. Hein,
oui, ça peut durer un sacré moment. Oui. Depuis le temps qu'on nous prédit l'éclatement de la bulle.
Mais elle éclatera fatalement. Ça, c'est une absolue sécurité, étant donné que, comme il ne restera rien de beaucoup de ces choses qui auront valu des sommes colossales, eh bien, il va bien falloir se reporter dans cette époque étrange de l'art financier qui commence à la fin des années 90, à qu'est-ce qui reste en dessous du rien. Et là, on va peut-être découvrir des choses, une autre création, un autre monde. Enfin, c'est ce que nous espérons. Enfin, nous parions sur l'art caché.
Tout à fait.
Christine, merci infiniment de ces merveilleuses chroniques qui nous enchantent. Alors, et surtout nous rendent intelligents.
Sur le blog, bien sûr, il suffit de taper Sourgins, S-O-U-R-G-I-N-S, et vous tombez sur le blog et vous allez sur l'onglet qui s'intitule « Le grain de sel du mardi ». Et donc, un mardi sur deux, je fais une petite chronique concernant l'actualité de l'art. Vous pouvez vous y abonner gratuitement.
Et surtout diffuser.
Voilà, n'hésitez pas à diffuser, c'est fait pour ça.
Merci Christine.
Au revoir Aude.
Boris Lejeune, donc nous terminons l'émission et nous aimerions savoir quand la sculpture sera prête. Quand est-ce qu'elle sera inaugurée à Orange?
Voilà la question douloureuse pour moi, parce que quand même il y a trois grandes figures. Plus grand que la nature, un peu plus grand que la nature.
Et donc c'est une longue,
il
long
y a
travail.
Un relief, il y a des inscriptions de tous les 300, parce qu'il n'y a pas que les religieuses qui étaient guillotinées, il y avait encore 300 personnes de tout bord, des nobles,
comme
des
comme partout marches. D'ailleurs avec la guillotine, depuis le même des enfants.
Oui, la guillotine, elle a eu le goût d'hiver.
Et toute la société est concernée.
Oui. Oui, et donc... Bon,
donc ça prendra du temps.
La ville, elle veut que ça sera l'été de 2018. Je vais essayer, parce que je travaille chaque jour pratiquement 9h-10h. Il y a d'autres choses aussi. Il y a cette gendarme pour Saint-Pétersbourg qui me prend beaucoup.
Et dont nous parlerons plus tard.
Beaucoup de temps, oui. Et j'espère que pour... l'automne de 2018.
Voilà, et nous en reparlerons.
Elle sera où il avait la guillotine.
Merci Boris. Et donc, on en reparlera quand ça sera debout. Merci.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 3 décembre, nous célébrerons le 30e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 3 décembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2017 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 3 décembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Chers auditeurs, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présence de Victor Scherrer, qui vient nous parler d'un événement à Paris, parce qu'on peut dire que c'est un événement. C'est l'exposition à Quai Branly, c'est-à-dire le centre culturel russe, qui est un centre, vous imaginez les bouleversements de l'histoire, qui s'appelle Centre spirituel
et culturel
russe, et tout se passe
orthodoxe.
Autour orthodoxe. Oui. Et tout se passe autour de la cathédrale, la nouvelle cathédrale, qui, dont, vous voyez, quand on arrive sur le pont, on voit l'oignon de la cathédrale, les oignons, parce qu'il y en a plusieurs, et derrière la tour Eiffel. Et c'est quand même assez merveilleux, parce que normalement, ça aurait dû être une mosquée.
Et dessinée par Villemotte.
Et dessinée par Villemotte, un architecte français.
Oui.
Ce qui est bien connu dans le monde entier. Et donc, vous disiez qu'on a su, Victor Scherrer, que vous aviez une collection de peintres non-conformistes que vous aviez fait, et vous allez nous raconter cette histoire. Et c'est le pope orthodoxe qui est venu vous dire, mais venez exposer chez nous. Et tout ça en novembre 2017 pour fêter la révolution russe, c'est pas mal.
C'est pas mal.
On peut dire qu'en un siècle, la situation s'est retournée complètement.
Complètement, complètement, oui.
Alors, chers auditeurs aussi, elle ferme, pour ainsi dire, ce soir. Et donc, vous avez quelques heures pour aller voir cette exposition. Oui. Mais n'ayez crainte, si jamais vous ne pouvez pas, il y a le catalogue, et qui sera vendu sur place d'ailleurs, qui sera toujours sur place. Et le catalogue donne à la fois l'histoire et aussi les images. Et pour vous consoler, vous pourrez avoir au moins le catalogue.
Il est publié, l'éditeur est donc Terra Mare, et cet éditeur a un diffuseur, et donc le livre se trouvera, et va se trouver bientôt, ou devrait déjà être, dans toutes les bonnes librairies, normalement.
Bon, donc c'est important, et les traces, c'est ce qu'il y a de plus important, on ne fait rien sans laisser une trace. Ouais. Alors, Victor Scherrer, vous êtes un des rares, mais quand même, il y en a, collectionneurs français. Et j'en connais une autre et qui a collectionné dès le début.
Oui.
Voilà. Et racontez-nous un peu cette histoire.
Oui.
Parce que collectionner des artistes russes à une époque où on sortait, on entrait difficilement et où la liberté n'était pas au bout du jour.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, tout a commencé pour moi à Montgeron. C'est-à-dire que à Montgeron, un ancien bénédictin donnait d'ailleurs des conférences sur les grands pères de l'Église orthodoxe et les pères d'Orient, qu'on appelle. J'allais à ces conférences, et là-bas, j'ai rencontré un homme étonnant.
Et on est en quelle année? C'est important.
On est en 1904, on est à la 86-87. Ouais. Donc, à Montgeron, je rencontre un personnage hors du commun, Alexandre Gleiser. Alors, un mot sur Alexandre Gleiser. C'est un homme qui est né à Bakou, en Géorgie, qui était ingénieur du pétrole, donc ingénieur diplômé, tout ce qu'il fallait, et qui abandonne tout pour se consacrer à la fois à la poésie et à la promotion de la peinture russe non conformiste. Gleiser, donc, à un moment, est forcé par les autorités soviétiques, qui à l'époque ne rigolaient plus du tout avec ce genre de sujet, puisque en URSS, c'est très simple. Ou vous peignez selon le réalisme socialiste soviétique, ou c'était le goulag, l'asile psychiatrique, la prison, etc. Donc c'était très simple, très clair et très net. Et donc, Gleiser, à un moment, est forcé par les autorités, parce que c'était déjà un personnage qui avait acquis une certaine notoriété, donc il est forcé de s'exiler. On lui dit, où tu t'en vas, où c'est le goulag. Et donc, il parvient à quitter la Russie avec environ 500 œuvres. À l'époque, c'était assez facile de rouler les toiles, etc. Et donc, il les quitte et il crée pour la première fois à Montgeron. Montgeron, c'était en 1917 l'orphelinat des cadets du tsar. Donc tout ça. Et là-bas, il crée le premier, à partir de 1975, il crée le premier musée d'art russe contemporain. Contemporain signifiant d'art russe et des non-conformistes, c'est-à-dire de ceux qui ont eu le courage de peindre en dehors du réalisme soviétique. Et c'est là où j'ai rencontré cet homme qui est devenu mon mentor. Gleizer, c'est un personnage hors du commun. Il avait à l'époque épousé Marie-Thérèse Cochin et j'allais souvent, et grâce à lui, j'ai pu commencer d'une part à comprendre ce qu'était l'art russe non conformiste, mais en même temps, j'ai pu commencer à acquérir des toiles, et je les ai, des toiles, des tableaux, enfin, des dessins, et j'ai commencé à collectionner à partir des années 86-87. Et pendant plus de, voilà maintenant pas mal de temps, donc j'ai commencé cette collection avec, je l'avoue, une certaine passion. J'avoue aussi que je n'aimais pas du tout, mais alors pas du tout, le régime soviétique.
Vous nous étonnez.
Voilà. Et donc, j'ai commencé cette collection. Et donc, récemment, lors d'une conférence du Cercle Pouchkine, au Centre culturel, spirituel et culturel orthodoxe, Monseigneur Nestor, qui est le patron du patriarcat de Moscou, avec autorité sur toute l'Europe occidentale.
Une sorte de nonce apostolique.
Ah oui, c'est important. C'est un homme extrêmement important. Monseigneur Nestor m'a dit, mais écoutez, je lui ai parlé de mes peintres russes, de ma collection, du livre que j'allais sortir. Et il m'a donc proposé, il m'a donné trois étages, ce qui est exceptionnel, dans la partie du centre culturel. Et j'ai donc pu faire cette exposition qui a coïncidé avec la sortie du livre sur peintre russe non conformiste, 1960-1990.
Alors, vous venez de donner deux dates, parce que c'est un moment dans l'histoire. Disons que jusqu'à la mort de Staline, on ne peut rien faire ni rien bouger, c'est la terreur. Et il y a un moment où ça s'ouvre un petit peu pendant 4 ans, 5 ans,
voilà,
même
voilà,
pas.
Exactement.
57, 62, quelque chose.
Exactement,
comme ça.
Je vois que vous avez...
C'est-à-dire que les dates sont très importantes si on veut comprendre l'histoire, et même si on veut la comparer avec notre histoire à nous, parce que qui est une autre histoire.
Oui.
Et donc, ça commence dès que ça s'ouvre un peu et qu'on ne va pas automatiquement au goulag ou qu'on n'est pas sous le poids du terrorisme, en fait. Immédiatement, la vie ressurgit. Et il y a même eu des expositions. Et vous racontez d'ailleurs l'importance des expositions étrangères venues à Moscou.
En 57. En fait,
pour déclencher les choses.
Voilà, tout se passe en 57, parce que vous vous souvenez, 56, les chars soviétiques, quand même, rentrent à Budapest, envahissement de la Hongrie, 200 000 morts, et Khrouchtchev veut faire oublier ça le plus vite possible. Le maître du Kremlin se dit, la meilleure façon de faire oublier rapidement tout cela, en 57, juillet 57, donc, c'est d'organiser à Moscou le congrès, premier congrès mondial de la jeunesse. Il y a près de 40 000 jeunes qui viennent du monde entier, surtout d'ailleurs des partis communistes, mais toujours ils viennent et ils emportent avec eux des livres, etc. Et en même temps, c'est-à-dire qu'à la même époque, on permet à des galéristes et on permet surtout aux musées, à quelques musées, de s'ouvrir à l'art occidental. Alors là, stupéfaction, c'est-à-dire que les Russes qui... depuis 1917, n'avait même plus vu ni Kandinsky, ni Malevich, ni la première avant-garde.
Disons, à 22. Disons, c'est à partir de 22 que vraiment, Lénine leur dit, j'aime pas ça, j'en veux pas. Et on les envoie à l'extérieur pour être des agents et faire croire qu'en Russie, il y a une grande ouverture et une grande modernité.
Exactement. Donc, mais vraiment, disons, de 22 à 57, on ne savait plus ce que c'était que l'art, l'évolution de l'art en Occident. Donc, les Russes découvrent ça avec stupéfaction, et pendant 4 à 5 ans, il va y avoir ce qu'on a appelé le dégel khrouchtchevien. Jusqu'à la fameuse exposition en 1962, je crois le 1er décembre 1962, où il y a une exposition au manège, c'est la plus grande salle d'exposition à Moscou, et où sont exposés un grand nombre de non-conformistes. À peu près tous les grands noms sont là, et là, Khrouchtchev, le maître du Kremlin, se met dans une colère, mais une colère rouge ou noire, enfin, à vous de choisir. Et donc, Khrouchtchev dit... Mais enfin, et alors, heureusement, ça a été enregistré. Heureusement, on a enregistré, mais il leur dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces atrocités? Le mot est là. Ces atrocités, même mon petit-fils peut mieux dessiner que vous. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Êtes-vous, texto, hein, des hommes ou des pédérastes? Comme ça. On va interdire tout ça. C'est fini, interdire tout ça. Et il cite, il dit, je ne veux plus jamais voir ces atrocités, ni à la télévision, ni à la radio, nulle part, fini, interdire. Et là, dès ce moment, donc 1er décembre 62, c'en est fini. À ce moment-là, l'ensemble des non-conformistes vont devoir, comme le dit très bien Mikhaïl Chemiakine dans un très beau texte, vont devoir retourner sous les combles, dans les caves. Ils vont être poursuivis en permanence par tous les sbires du KGB. On voit d'ailleurs certaines photos, on voit les voitures du KGB qui assistent, parce qu'il y a des expositions dans les appartements. Par exemple, Georges Kostakis, grand collectionneur au Sviatoslav Richter, prête leur appartement à des non-conformistes. Eux, on peut pas, on peut difficilement les toucher. Mais pour le reste, alors le KGB, vraiment, pendant 30 ans, ça va être une oppression totale. Enfin, pendant 28 ans. Après, jusqu'en 90, jusqu'à la chute du mur, où le KGB, le simple fait de s'écarter du réalisme socialiste soviétique, c'était le goulag. Svechnikov a fait 8 ans de goulag. L'asile psychiatrique, ou alors on vous mettait en tôle pour vous faire un peu réfléchir, comme il disait très bien. Donc voilà ce qui va se passer.
Il y a eu quand même des petits moments de fléchissement dans les années 70. C'est-à-dire que, par exemple, à Saint-Pétersbourg, la communauté des artistes non-conformistes, il y avait une liberté contrôlée. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de faire leurs réunions, leurs petites expositions en secret, etc. Mais à une condition, c'est de ne pas critiquer le système en place. Ils pouvaient critiquer Staline, ils pouvaient critiquer Lénine, mais pas les gens en place.
Le simple fait, vous voyez, ce que tous les non-conformistes qui constituent un mouvement, mais qui ne constituent pas d'école, il n'y a pas d'école. Les écoles, ça va dans tous les sens. Ce qu'ils veulent, c'est la liberté de créer et d'exposer. Or, la liberté d'exposer leur a toujours été refusée, absolument. Ce qui se passe alors, c'est que justement, le 15 septembre 1974, date précise, les non-conformistes, conduits en particulier par Rabin, Niemoukine, Yankilevski, etc., les moscovites décident, en ayant demandé l'accord des autorités, décident d'organiser dans le parc Ismaïlovo une exposition de leurs œuvres. Et tous les peintres se réunissent là-bas, peu à peu déposent sur des chevalets, on voit... Et alors le régime soviétique envoie les bulldozers.
Il a fait une énorme erreur.
C'est l'énorme erreur, parce qu'à ce moment-là, par exemple, Vladimir Sitchov, notre ami Sitchov, le grand photographe, il est là. Sitchov photographie tout. Il y a un journaliste de Libération qui est là. Et donc, le monde entier découvre les bulldozers en train d'écraser des toiles.
Il faut dire aussi que c'est un moment spécial où il y a des missions diplomatiques américaines et russes qui sont réunies à Moscou,
c'est exact.
Où il y a une discussion sur l'échange de blé.
Le blé,
Les Russes n'ont pas assez de blé pour nourrir la population et demandent aux Américains de leur vendre du blé. Et ce sont des négociations.
Oui.
Et à mon avis, le fait que la presse entière du monde entier, en passant par Libération, ait connu la chose, c'est préparé d'avance. Quand même, c'est une superbe manipulation de la CIA.
Et
on peut dire, moi, la guerre froide culturelle a été gagnée ce jour-là. Si vous regardez l'histoire de la guerre froide culturelle, c'est une date. Parce que le résultat, c'est quand même que l'Amérique, que les Russes, les Américains demandent aux Russes de faire que l'exposition soit sur le parc central de Moscou, donc deux jours après.
15 jours après, en
deux
fait.
Deux jours après. Et pendant que la mission ouais. diplomatique est toujours là.
Ouais.
Et la deuxième condition, c'est qu'on laisse partir tous les artistes qui veulent partir, et que l'Amérique leur donne un visa, mais que la Russie doit les laisser partir. Et ouais. c'est comme ça que vient la première diaspora massive des artistes ouais. hors de Russie pour gagner New York.
Oui.
Ça s'appelle la victoire de la guerre froide culturelle.
C'est exact, mais alors si vous me permettez, la plupart d'entre eux, pour être tout à fait précis, la plupart d'entre eux choisissent non pas New York, mais la plupart d'entre eux choisissent Paris. Je peux vous les citer, tous ceux actuels, le plus grand nombre, j'ai repris tous les non-conformistes, près de 50% d'entre eux ont choisi de vivre comme Rabin, comme Tselkov, comme Nemoukine est resté à Moscou, mais ils ont prévu, comme Yankilevski, etc., ils aiment Paris. Alors, certains sont d'abord allés à New York, chez Myakine, mais ils sont revenus à Paris parce qu'au fond, quoi qu'on dise, vous savez, Paris a quand même un charme que non, peut-être pas dans ce domaine-là, en tout cas, New York, où certains, les Juifs, sont plutôt allés à Tel Aviv, mais ils sont revenus. Rabin, qui est juif, est revenu vivre et vit depuis maintenant, je ne sais pas, voilà 30 ans. On lui a d'ailleurs enlevé son passeport pour lui avoir rendu dans une grande cérémonie. Donc, Paris a vraiment été le centre d'attraction plus que tout autre, peu à peu, des non-conformistes.
Et ils n'ont pas été très bien accueillis à Paris. Au début, dans les années 75-83, oui, ça allait à peu près. Mais après, c'est toute une autre histoire, c'est une deuxième histoire dont on parlera pas. Mais donc, ce Moscou-Paris se produit une dernière fois, si on peut dire, entre ces années 75 et. Et la chute.
Il y a eu, peu à peu, on sent un intérêt. Et il y a eu plusieurs expositions, soit dans des galeries, même parfois dans des musées officiels, tels que, par exemple, un très beau catalogue, Paris, Berlin, Moscou. C'est-à-dire que peu à peu, on sent un déplacement de l'axe qui serait, enfin je ne veux pas trop m'étendre, Paris, Londres, Washington, vers un axe qui est plus Paris, Berlin, Moscou.
Exactement, c'est la suite de l'histoire, elle va peut-être dans ce sens-là.
Voilà, nous la verrons, nous allons la construire aussi. D'ailleurs. Oui.
Et donc, vous avez ces tableaux que vous avez choisis un à un, et ils sont réunis dans ces trois étages. Comment avez-vous conçu cette exposition? Parce que tout est conçu, à la fois écrit dans le catalogue, exposé dans le catalogue aussi. Et dans l'espace de un quai Branly.
Alors, il y a à peu près 60% de ma collection qui est là-bas. Le reste, certaines œuvres d'ailleurs, Monseigneur Nestor, il faut le comprendre, Monseigneur Nestor est donc évêque orthodoxe, il est moine, n'est-ce pas? Et alors que le père Georges qui travaille avec lui est pope marié, vous voyez la grande différence. Et donc Monseigneur Nestor m'a fait comprendre que certaines œuvres quand même, et le père Georges, il y a des œuvres un peu légères. Donc celles-là, nous ne les avons pas mises, je peux comprendre. C'est dommage parce qu'il y a une très belle œuvre, par exemple, de Kalinine, qui est un peintre extraordinaire qui vivait dans l'Arbat et qui avait l'habitude de fréquenter, disons, à la fois des modèles et des prostituées qui lui servaient de modèles. Bon, alors cette œuvre-là, qui est magnifique, le peintre et son modèle, elle ne se trouve pas.
Mais il y aura une suite à cette exposition, elle va voyager sûrement.
Je pense qu'elle va voyager parce que j'ai déjà eu plusieurs sollicitations en me disant que cette exposition... Alors, cette exposition a donc été conçue en deux étages principaux. Le premier étage est un étage que j'appellerais un peu didactique, c'est-à-dire cet étage, et là je remercie vraiment les gens qui ont conçu cela, c'est-à-dire le directeur artistique qui nous a conçu des bâches. Maintenant, on fait ça sur des bâches. Alors les bâches, on les roule et puis on les réutilise, ce qui est formidable, mais avec beaucoup de talent. Donc on explique à la fois ce qu'est le mouvement non-conformiste.
Qui n'est pas un mouvement esthétique.
Qui n'est pas une école. Hein. Il faut être bien école. Ces peintres ne sont unis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me rappelle, mais que par la volonté de pouvoir créer librement et d'exposer. Pour le reste, chacun poursuit son...
Alors, son style, ses idées...
Très franchement, c'est d'une hétérogénéité énorme, énorme. Il y a des peintres comme Zverev, il y a des peintres comme Zvezhnikov, est-ce qu'ils se rattachent ? On ne peut pas leur coller des étiquettes du style. Oui, il y a fauvisme... Il y a une école constructiviste moscovite,
qui
un
suit,
peu plus.
Qui
oui,
remonte,
on la sent, elle revient. Ouais. Il y a Boulatov se rattache quand même.
On reprend les choses là où on les a laissées en 22.
Voilà, on les reprend, mais il y a une véritable création. Ouais. Et je reconnais qu'il y a des œuvres, moi-même, vis-à-vis desquelles j'éprouve moins d'empathie. Ouais. Mais c'est important. Ouais. Ils sont importants. Chacun va dans son... suit sa voie, la poursuit, et elle n'a souvent rien à voir avec la voie d'un autre. Rabin reste Rabin. Rabin actuellement continue à peindre. Il est âgé, il a près de 90 ans, il habite Paris, il est à Beaubourg, il est formidable, il est merveilleux, il m'a donné deux, trois interviews formidables. Mais donc, chacun poursuit sa voie. Rabin continue à faire du Rabin. Jan Kilewski, un peu, bon, c'est incroyable, Jan Kilewski continue à faire du Jan Kilewski. Tselkov ne fait que ses masques.
Chemiakin.
Alors, Chemiakin fait son carnaval de Saint-Pétersbourg. Alors, Chemiakin évolue plus, mais quand même, ça reste du Chemiakin. Donc, au premier coup d'œil, vous pouvez dire, ça c'est Tselkov, ça c'est Chemiakin. Au premier coup d'œil, chacun, en quelque sorte, approfondit. Alors, ce qui se passe... En 1990, chute du mur, puis effondrement de l'URSS. À ce moment-là, moi je considère, et je ne suis pas le seul, d'ailleurs je viens de retrouver un beau texte de Gleyzer où il dit « c'est fini ». Lorsque la liberté revient, non seulement la liberté en Russie, mais aussi un peu une vague capitaliste assez forte, n'est-ce pas, avec la consommation, etc., en quelque sorte... Le non-officiel se dissout dans l'officiel. Tout est permis.
Mais il n'y a pas d'art officiel. Il y a un peu un art officiel en Russie, qui est l'art de l'État, c'est-à-dire les commandes publiques, etc. Mais pour ainsi dire, plus rien.
Il n'y a plus
rien. Puisqu'il n'y a plus d'aide. Avant, il y avait une discrimination entre l'Union des artistes.
Exactement.
Et c'est peu de gens, l'Union des artistes.
Oui.
C'est 12, 14 000 personnes pour un immense pays,
oui.
Alors que qui va de l'Atlantique au Pacifique. En France, la Maison des artistes, qui ne rassemble pas tous les artistes de France, beaucoup d'artistes en France ne sont pas à la Maison des artistes.
Oui.
C'est 40 000 à la Maison des artistes. À l'Union des artistes, c'était déjà un privilège d'y être.
Oui, puisque vous...
Les autres n'existaient pas.
Les autres n'existaient pas, puisque vous ne... Si vous n'étiez pas membre de l'Union des artistes de l'URSS...
Et vous n'étiez pas librement, vous n'y entrez pas librement, on vous coopte.
Non seulement ça, mais vous n'aviez pas interdiction d'acheter des pinceaux, de la couleur, des toiles. C'est pourquoi, par exemple, un homme comme Zverev ne peint que sur du kraft.
Ouais.
Parce qu'il n'a que cela. Ouais. En fait, le papier kraft résiste très bien.
Autant,
j'ai de très beaux Zverev qui prouvent que ça résiste. Mais, donc, c'est très simple. Ou vous étiez membre de l'Union des artistes de l'URSS, ou vous n'existiez pas. Alors, certains ont pu trouver, il y avait une voie moyenne qui était de devenir illustrateur pour lire.
L'artisanat, si on
voilà.
peut dire.
Alors, là, on permettait...
C'était pas l'académie, c'était les écoles de graphisme.
Voilà,
et
voilà,
on entrait, on avait un métier dont on pouvait vivre.
On pouvait vivre. Sinon, vous étiez considéré réellement comme un... Enfin, il y avait différents termes.
Comme un bohème.
Mais vous étiez considéré comme un parasite. Le mot était parasite.
Parasite bohème.
Un parasite. Donc, voilà. Donc, à partir de 90, je l'ai vécu, parce que je l'ai senti, apparaît une forme qui s'appelle le Sotz-Art. Et le Sotz-Art, qui est intéressant, à l'origine, le Sotz-Art osait critiquer le régime, mais le Sotz-Art devient... En quelque sorte, avec ce côté où on se moque de ce qu'était Staline, on se moque du régime, on se moque de tout, le Sotz-Art devient un peu...
Un pop.
Quelque chose de... C'est facile, n'est-ce pas ? C'est facile quand il n'y a plus de pression. Vous ne risquez plus rien. Alors, c'est Comar et Mélamide qui ont lancé des choses intéressantes. lorsqu'ils étaient sous l'oppression. Mmh. Mais dès qu'il n'y a plus d'oppression, pour moi, les non-conformistes en tant que tels, le mouvement n'existe plus.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passera en France. Les dissidents n'existeront plus quand l'État ne se mêlera plus d'art.
Oui, oui.
C'est-à-dire que ce n'est rien d'autre que des gens qui sont liés par l'amitié et l'estime, qui disent « ce système ne va pas, quand il aura changé, on disparaît ». Mais ce n'est pas un militantisme, la dissidence. Oui. C'est simplement, on reconnaît qu'un système ne va pas.
Oui.
Et puis l'oppression et tout le reste. Oui. Et effectivement, en plus, ils avaient pu en vivre quand même un peu, ces non-conformistes, à cause des achats des diplomates. Il y a eu tout un marché, les a aidés à vivre pendant quelques années, qui a disparu du jour au lendemain, quand le système s'est effondré.
En fait, il y a eu tout un mouvement par lequel... Les diplomates à Moscou avaient senti quand même qu'il y avait quelque chose là derrière. Il y a des gens puissants, passionnants. Je pense en particulier à mon cher valet de carreau, Denis Moukine, qui... Et donc, ces diplomates achetaient les œuvres et ensuite les faisaient passer par la valise diplomatique. Moi-même, un soir à Moscou, je n'oublierai jamais cette soirée là où c'était le carême orthodoxe, en 88... Donc les choses commençaient à être un peu moins dangereuses.
C'est-à-dire que le KGB avait pris le parti des artistes, voilà.
Voilà. Et donc là, je n'oublierai jamais cette soirée chez Svechnikov, qui avait fait 8 ans de goulag. Et comme c'était le carême orthodoxe, nous ne pouvions manger que des pommes de terre, du hareng. Mais alors la vodka coulait, absolument à flot.
Pas de pénitence pour la vodka.
Et alors j'ai acheté un tableau à Svechnikov sans mégoter. Là, je croyais que en plus à l'époque c'était très raisonnable. Et donc je suis sorti, je l'avoue, ayant bu beaucoup trop de vodka, avec mon tableau sous le bras. Mais en 88, il n'y avait pas de taxi. Les taxis n'existaient pas. Il n'y avait pas de taxi. Il y avait des chauffeurs pour les gens du régime. Et donc j'ai dit à Svechnikov, mais qu'est-ce que je fais avec mon tableau sous le bras? Il m'a dit, arrête une voiture. J'ai arrêté une voiture et j'ai failli me faire écraser, d'ailleurs. Je lui ai donné 5 dollars et il m'a conduit à mon hôtel. Mais je n'oublierai jamais. Et le lendemain, j'étais totalement dégrisé. Mon tableau sous le bras, emballé dans la Pravda. J'arrive pour rentrer dans l'avion d'Air France. Deux policiers me disent, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai arraché la Pravda, et je leur ai dit « art moderne ». Et ils m'ont dit « c'est de la merde ». Ils m'ont dit ça en russe, mais ça voulait dire « allez, tout de suite, vous pouvez rentrer ». Quel souvenir! Mais donc, souvenir merveilleux, évidemment.
Oui, alors, tout se termine brusquement, parce que 87, il y avait eu cette réunion, non pas des artistes... pas de la Maison des Artistes, mais de l'Union des Artistes, mais de l'Union des Écrivains.
Oui.
C'était une des très grandes réunions. C'est ce jour-là que quelqu'un s'est levé pour dire « Expliquez-nous pourquoi on a publié tous ces livres et aucun n'est resté, personne ne les a lus. Pourquoi avoir dépensé tant d'argent pour publier des choses qui ne laissent aucune trace ?» Et ça a été un peu un choc, véritablement le début de la fin, si on peut dire.
Oui.
Et quelqu'un a osé le dire au comité.
Oui.
Et en fait, je m'étonnais de ça avec un ami russe, il m'a dit « mais c'est tout simplement parce que la KGB avait dit à certains, si vous prenez la parole et si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, on vous laisse tranquille, on ne vous fera rien, donc allez-y ». Bon, ça s'effondre 4 ans après, en 91.
Oui.
Donc c'est vraiment jusqu'au bout. Et la dernière, les années 80 ont été extrêmement dures, plus dures peut-être que les années 70.
Oui.
Il y a eu un risque, ce que les Occidentaux ne savent pas, c'est qu'il y a eu vraiment un dernier risque de guerre ouverte avec la Russie au début des années 80. C'était encore possible jusqu'en 83.
Oui.
Donc, la tension a été très forte.
Mais c'est comme maintenant, moi j'avoue que... Et je lui rends grâce, parce que Mgr Nestor, qui est quand même le patriarcat de Moscou, attention, vous savez qu'il y a, il y a le patriarcat de Constantinople, qui est plutôt, auquel se rattachent plutôt les anciens Russes blancs, si je puis m'exprimer ainsi. que Mgr Nestor me prête un an, en quelque sorte, ça a été presque jour pour jour, un an après la révolution bolchevique, puisque la révolution bolchevique commence vraiment le 7 novembre. Mmh. 7 novembre, au moment où les marins de Kronstadt sont défaits par les bolcheviques à l'état pur. Donc, qu'on me prête cela, un an après, un siècle après, pour une exposition sur les non-conformistes qui sont... C'est un pied de nez gigantesque que fait l'art et l'histoire de la Sainte Russie au régime bolchevique. Ouais. Voilà.
Et puis aussi, c'est le pied de nez de l'histoire de l'art à l'histoire tout court.
Voilà, exactement.
Ce sont deux histoires qui, d'une certaine façon, heureusement, malheureusement, ont beaucoup à voir, mais aussi n'ont rien à voir. L'art est libre, que ce soit de droite, de gauche, du milieu, on s'en fout.
Heureusement, l'art est libre.
L'art est libre et au-delà de l'histoire.
Et eux l'ont prouvé de la manière la plus éclatante. Et justement, en ayant un foisonnement et qu'il n'y ait pas eu d'école non conformiste, est une grande preuve de la liberté profonde de chaque artiste de continuer dans sa voie. Et le plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, ceux qui sont vivants, il n'y en a encore pas, continuent dans leur propre voie. Et ils approfondissent sans arrêt. Alors, par exemple, il faut citer le fait que, par exemple, Chemiakine et Vassiliev ont été profondément influencés par l'icône. Et l'icône a été, pendant des années... Pour eux, la grande histoire de la peinture des icônes en Russie a été pour eux l'école métaphysique de Saint-Pétersbourg. C'est formidable, c'est magnifique.
Mais vous savez, tous ces artistes, quand ils sont arrivés ici, parce que nous, on les connaît, ce sont nos amis, ils sont arrivés, alors certains sont arrivés tôt, mais la plupart sont arrivés après 75, donc après l'ouverture, un certain nombre au début des années 80.
Oui.
Quand ils sont arrivés ici, ça a été la stupéfaction, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y a quelque chose qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas? Ils s'aperçoivent que l'art n'est pas libre en France.
Oui.
Et qu'ils peuvent continuer à faire leur peinture, mais que la reconnaissance, elle est pas, on ne la trouve pas en France. Et c'est le moment de l'art conceptuel officiel qui commence.
Vous êtes un peu, si vous me permettez, vous êtes un peu dur. Parce que
je les connais tous personnellement.
Oui, mais peu à peu, quand même, si vous voyez actuellement la cote d'un Boulatov, je peux vous dire...
Oui, mais parce qu'il fait partie de cette histoire.
Oui, mais donc...
Et qu'il y a des collectionneurs russes,
si vous voulez,
maintenant.
Actuellement, un empire comme la Russie, un empire, ce qui le reste d'ailleurs, comme la Russie, n'a pas le choix. Pendant 30 ans, il y a un blanc dans l'histoire de la Russie. Ça, c'est énorme. Et ce blanc, même quand j'allais à la Tretiakov quand même, ou quand j'allais à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, j'y suis allé à plusieurs reprises, et même après l'ouverture, il y a très peu de bonnes œuvres, parce que tout est parti. Donc ils doivent, ce pays, la Russie, la Sainte Russie, doit reconstituer ce blanc dans son histoire de la peinture. C'est ce qui est passionnant, et c'est ce qui assurera peut-être un non-conformiste...
Mais vous savez qu'en France, il faut faire la même chose. j'insiste, c'est-à-dire que vous avez un blanc, vous avez une case vide en France depuis à peu près 37 ans. Bon, dire que 83 est une date qui est importante, on n'a pas pris en compte toute la création qui n'était pas officielle, c'est-à-dire qui n'est pas conceptuelle.
Oui.
Et j'essaye de faire ce travail, on est plusieurs quand même, à essayer de rassembler tout ce qui peut peut-être rester après dans l'histoire. Parce qu'il faut quand même, à ce moment-là, dans la peinture, ce n'est pas comme dans l'art conceptuel, il faut être bon, il faut la qualité. Il faut le grand niveau. Si vous ne l'avez pas, l'histoire vous oubliera, c'est normal. Ça fait partie du risque et du jeu de la vie d'un artiste. Et les choses ne se sont pas passées de la même façon, mais elles se sont passées d'une autre façon.
Oui, j'attends.
Mais dites-moi, ceux qui nous ont fait prendre conscience de ce problème grave... en France, ce sont ces artistes russes qui sont arrivés et qui se sont dit «
mais il y a quelque chose qui cloche ici ».
Et ils sont restés à Paris au lieu d'aller ailleurs, et ça a été héroïque pour eux, parce que la plupart d'entre eux vivent parce qu'ils ont parfois des galeries à l'extérieur, à New York ou en Allemagne, ou en France, enfin, dans d'autres pays, en Belgique.
Oui.
Et voilà, donc c'est pas la France qui les a fait vivre, mais ils ont vécu intérieurement en France parce qu'ils ont trouvé qu'évidemment il y avait un échange, il y avait ce qu'ils attendaient.
Oui, mais ils ont provoqué aussi, ils ont été un élément déclencheur pour réellement faire comprendre par leur, à la fois par leurs œuvres, mais aussi par le chemin parcouru, pour faire comprendre que l'art officiel tel qu'il peut être, tel qu'il a existé pendant longtemps, et vous venez de le dire en France,
où l'art officiel en Moscou...
Oui, il existe encore, hélas, mais on... soyons optimistes.
Non, mais je n'ai aucun pessimisme. Je pense que c'est toujours l'art qui va gagner. Donc... Oui. Mais Victor Scherrer, vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez Victor Scherrer, et il vous invite à aller... Prenez le métro, prenez le taxi, le bus, allez voir l'exposition avant qu'elle ferme ce soir, à 19h.
Ah, demain soir.
Jeudi 30.
Elle ferme jeudi 30 à 19h. Hélas, il faudra remballer.
Exactement, mais le catalogue est toujours là. Voilà. Merci Victor.
Merci mille fois.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal d'Aude de Kéros, assisté de Christine Sourgens. Émission préenregistrée les 27 et 29 novembre 2017. Elle est diffusée pour la première fois jeudi 30 novembre 2017 de midi à 13h30 et réalisée par Franck, Jean-Édouard et Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimale est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.